Voilà, donc c'est encore nous, n'est-ce pas? Et nous allons continuer à suivre l'aventure de nos amis, la gomme, le crayon et la feuille. Et pour ceux qui n'étaient pas là, et même pour ceux qui étaient là, on va vous raconter à nouveau l'histoire. Parce que en 15 jours, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, pas vrai? Alors, Elia n'est pas là aujourd'hui, elle a une obligation familiale. Mais on va faire... En fait, je vous remercie tous les trois. Merci. Donc, je vais remplacer Elia. Hein. Le crayon avait pour rôle d'écrire l'histoire. La gomme, elle, veillait à ce que l'histoire soit écrite selon la vérité. La feuille, quant à elle, était le support sur lequel serait partagée, transmise et lue par beaucoup l'histoire. Le crayon, plein de zèle, écrivait tout ce qui lui passait par la tête. Et il retranscrivait ce qui lui semblait bon. Or, le crayon n'appréciait guère d'être constamment suivi par la gomme, et découragé, il le lui reprocha.
Gomme, cesse de me suivre et d'effacer ce que j'écris à ta guise.
Je travaille pour le compte de l'histoire. Nous avons le même maître et nous avons tous deux des instructions bien précises. Chacun selon le don que nous avons reçu. Ne tu crois pas?
Gomme, moi j'écris l'histoire. La feuille ne te l'a-t-elle pas dit?
Crayon, moi j'efface tes erreurs car l'histoire de la vérité ne doit faire l'objet d'aucune faute.
La feuille, voyant Gomme et Crayon se disputer, prit la parole.
Gomme, Crayon, tout au long de l'histoire, j'ai fait preuve d'une grande patience envers vous deux. Je me suis laissé écrire, gommer, trouer, réécrire, froisser, jeter et même brûler. J'ai vu des crayons avec des tristes mines et des gommes si sales que le rendu de l'histoire était pire après qu'avant d'avoir été effacé. Souvenez-vous, nous travaillons tous pour le compte de l'histoire. Crayon, l'histoire apprécie grandement ton zèle, sans lequel la feuille resterait blanche. Gomme, l'histoire apprécie beaucoup ta sagesse, sans laquelle l'histoire aurait bien moins de sens. Comprenez-vous le sens de nos existences? Quelle histoire sans crayon, ou sans feuille, ou sans gomme?
Oh feuille, je remarque à quel point je suis orgueilleux.
Gomme, crayon, être au service de l'histoire demande une grande humilité. C'est pour le service seul que vous avez reçu vos dons. Regardez-vous, vous diminuez au fur et à mesure de l'histoire. Plus tu écris, plus tu rapetisses. Pareil pour toi, Gomme. Sans le savoir, vous vous sacrifiez et vous avez un but commun. Tant qu'à travailler ensemble, faites-le pour la gloire de l'histoire.
Gomme et Crayon se regardèrent et comprirent l'importance d'une bonne collaboration. Voilà, merci beaucoup. Je vous sollicite souvent, mais c'est un bonheur de travailler avec vous. Alors, la dernière fois, nous avons radiographié la gomme. Et aujourd'hui, je vous propose d'étudier le cas du crayon et de la feuille. Dieu a un crayon. Il a écrit nos destinées. Dieu a aussi une gomme, celle du pardon. Et comme nous sommes faits à son image, eh ben voilà, nous sommes aussi appelés à écrire et parfois à être des gommes aussi. Alors écrire, au sens propre, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour écrire? Un crayon et une feuille. Ouais. Mais vous savez, on peut aussi écrire avec son sourire, avec sa voix, avec son cœur, avec son temps. Avec tout ce qu'on est. Alors on va d'abord parler du sens propre, écrire avec un crayon et sur une feuille. Alors que peut-on écrire? Alors on peut écrire ce que Dieu nous dit, ce que sa parole nous révèle, ses réponses à nos prières, mais aussi ce que nous inspire la nature, nos réflexions, des chants. J'ai lu dernièrement un article qui disait que tout ce qu'on écrit à la main s'imprègne plus profondément dans nos esprits, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan émotionnel. C'est dommage, on a perdu l'habitude d'écrire à la main. Et je pense à nos petits qui, d'après les prévisions que je trouve néfastes, n'écriront bientôt plus à la main. Mais bon, ça c'est mon côté vieille maîtresse. D'ailleurs, quand Dieu voulait que son peuple mémorise quelque chose, il demandait à quelqu'un de l'écrire. Quand je visitais les écoles en tant que conseillère pédagogique, j'ai rencontré une enseignante qui notait toutes ses idées sur des post-it. Elle les collait sur les murs, sur le tableau, sur le bureau. Bref, sa classe ressemblait à un gros bouquet. Il y avait des roses, il y avait des jaunes, il y avait des verts. Et elle fonctionnait comme ça, se débarrassant des petits papillons qui avaient déjà été utilisés. Dieu était un avant-gardiste. Dans Deutéronome 11, il nous encourage aussi à utiliser des post-it. Ça a été partagé par Luc ce matin. Il parle de ses commandements, enfin pas Luc, hein, Dieu. Vous les écrirez sur les montants de la porte de vos maisons et sur les portes de vos villes. Il faut des gros post-it, mais Dieu nous invite à écrire tout cela. Non pas sur la porte de votre appartement, peut-être que ça ferait bizarre, mais sur la porte de nos cœurs. Alors nous avons besoin d'un outil. On a dit on va utiliser un crayon. Alors voyons, monsieur crayon, qui es-tu? C'est vrai, on se sert d'un crayon. Est-ce que vous savez l'histoire du crayon? Le crayon est né au XVIe siècle en Suisse. Konrad Gesner, on ne pouvait pas s'appeler Mangia Fazula comme tout le monde. Hein? Donc Konrad Gesner a eu l'idée de glisser une mine de graphite à l'intérieur d'un tube en bois. Puis après, donc, les crayons se sont répandus, c'était drôlement pratique, c'était chouette, on en a exporté, nous en France on en a importé, et puis il y a eu des guerres. Les frontières se sont fermées et on n'a plus pu avoir les crayons qui venaient de Suisse, d'Allemagne ou d'Angleterre. Alors Napoléon, notre cher empereur, ne voulait pas être en reste, donc il a chargé Monsieur Comté de nous fabriquer quelque chose de ressemblant. Et donc Monsieur Comté a travaillé, il a refait des crayons, puis après il a mélangé, il a dosé, il a fait les gommes grasses, les gommes sèches. Bon, moi je ne sais jamais quel numéro de gomme de mine correspond. Les mines grasses et les mines sèches, pardon, je ne sais jamais ce qu'il faut comme mine, mais peut-être que ceux qui dessinent sauraient vous dire ça beaucoup mieux que ça. Toujours, voilà, au début du 19e siècle, nous avions nos crayons français, Cocorico. Hein? Pourtant, c'est bien avant que Dieu a missionné des personnes pour écrire. On a vu la dernière fois, il a missionné Moïse. Il a missionné Josué, et puis au fur et à mesure que l'histoire avançait, les gens écrivaient. Hein, Jérémie 32, Dieu parle lui-même, et il dit « Voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu d'Israël, mets par écrit tout ce que je t'ai dit. » Ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas « Oh, je vais passer une après-midi tranquillou, je vais écrire. » Non, non. Dieu dit « Mets par écrit ce que je t'ai dit. » Et un verset que j'ai déjà cité, que je recite parce que je le trouve tellement important, Habacuc 2, verset 2. « Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. » Celui qui écrit est tourné vers l'extérieur, vers les autres. Il n'écrit pas pour lui-même. Alors bon, vous pourrez chercher, il y a beaucoup de références bibliques qui parlent des gens qui ont écrit sous le commandement de Dieu. Et c'est bien parce que autrement, nous n'aurions pas sa parole aujourd'hui. Alors écrire pourquoi? Pour la transmission, on peut écrire des livres, des témoignages, des exhortations, des recettes de cuisine, des histoires, des poèmes, des blagues. On en a besoin aussi. Il faut rire de temps en temps. Alors quand nous sommes en mission crayon, nous avons besoin de discernement, d'intimité avec Dieu, d'amour, de reconnaissance, de sagesse, d'humilité, de joie, de patience et d'une sacrée dose de persévérance pour écrire après le passage de Dame Gomme. Vous avez vu? En fait, tout ça, c'est une vraie liste de courses que nous pourrons retirer au drame divin, mais il faudra payer le prix. faut être prêt à payer le prix. Est-ce que vous connaissez la parabole du crayon? Non? Alors je vais vous la raconter. Au commencement, le fabricant de crayons parle au crayon. Il lui dit, il y a 5 choses que tu dois savoir que tu dois savoir avant que je t'envoie dans le monde. Souviens-t'en toujours et tu seras le meilleur. Ça, c'est bien. Premièrement, tu feras de grandes choses si tu te laisses guider par la main de quelqu'un. Deuxièmement, de temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage, mais il sera nécessaire si tu veux devenir le meilleur et être pointu dans ce que tu fais. Troisièmement, tu auras la possibilité de changer toutes tes erreurs si tu acceptes l'aide sage de la gomme. Quatrièmement, la partie la plus importante de qui tu es sera toujours dans ton intérieur. Et cinquièmement, malgré les conditions, tu devras continuer à écrire même si c'est difficile. Le crayon écouta, il promit de s'en souvenir et entra dans la boîte en comprenant clairement les conditions de son fabricant. Maintenant, mettons-nous à la place du crayon. N'oublions jamais les 5 règles et nous deviendrons de plus en plus efficaces. Est-ce que vous avez envie de devenir de plus en plus efficace pour Dieu ? Ouais. Alors, premier point, nous pourrons faire de grandes choses à condition de permettre à Dieu de nous tenir par la main. Deuxième point, de temps en temps, nous subirons un douloureux aiguisage en traversant différentes situations et ou problèmes, mais cela nous servira à devenir des personnes plus fortes et permettra aussi à d'autres personnes de bénéficier des dons que nous avons. Troisième point, en étant réceptif aux conseils, nous serons en mesure de corriger nos erreurs. Le quatrième point, la partie la plus importante de qui nous sommes sera toujours à l'intérieur. C'est notre cœur. Cinquièmement, quels que soient les endroits où nous marcherons, et peu importe la situation, nous devrons continuer à servir Dieu. Finalement, je trouve que nous ressemblons pas mal au crayon. Nous avons été créés pour un but spécial, chacun selon l'idée de Dieu pour nos vies. Nous avons tous été créés pour accomplir de grandes choses. Des choses différentes, mais de grandes choses aux yeux de Dieu. Alors, quelques pistes de réflexion encore sur ce qu'un crayon peut nous apprendre. Comme dans la parabole que nous avons lue, le crayon a un fabricant. Nous avons un créateur. Lorsqu'on fabrique un crayon, ce n'est pas pour le voir traîner dans un tiroir, ni pour le voir mâchouiller par quelqu'un en quête d'inspiration. Hein. C'est dans un but bien précis. Dessiner, écrire, de toute manière, peu importe ce que le crayon fera, il laissera une trace. Un crayon utilisé à bon escient laisse des traces. C'est une partie de notre mission. Laisser des traces là où Dieu nous place pour accomplir le projet que lui-même a écrit pour nous. Les crayons ont de la valeur. Voyez cela. Je les ai vus dans le magasin. Je les ai mis dans mon caddie. Je les ai payés à la caisse. Maintenant, ils m'appartiennent. Je peux les sortir de la boîte, je peux les aiguiser, je peux colorier, je peux écrire, mais je n'aurais pas pu le faire dans le magasin parce que je ne les avais pas payés. Dieu a payé pour nos vies. Nous en connaissons le prix. 1 Pierre 1, 18-19. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous venons de prendre la Sainte Cène et nous avons parlé du sang précieux de Jésus. C'est avec cela que Dieu nous a rachetés. Nous sommes les crayons de Dieu, ne l'oublions pas. En général, les crayons portent la marque de leur fabricant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui avez mon âge ou assimilée. Et je me souviens qu'à la rentrée, on avait des boîtes de crayons et sur chaque petit crayon, en doré au bout, il y avait écrit « Comptez ». Et chaque crayon, les familles les plus aisées achetaient des boîtes en métal, les autres avaient des boîtes en carton, mais peu importe, l'important c'était ce qu'il y avait dedans. Et les crayons étaient marqués « Comptez ». Dieu a mis sur nous la marque de son esprit. Alors la marque de l'esprit de Dieu, elle se décline sous une grande palette, mais on va parler juste d'un côté. Jean 13, 35, « Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Parce que l'amour de Dieu est inscrit dans nos vies, tout le monde saura qu'il est notre Créateur. Nous ne sommes pas n'importe quel crayon, nous sommes estampillés de la marque divine. Si vous posez un crayon sur une feuille, comme ça, quand vous allez prendre votre douche, quand vous allez revenir, est-ce que vous allez retrouver un dessin magnifique ? Non, un crayon posé sur une feuille, il ne fait pas des étincelles, il ne fait même pas des dessins. Pour qu'il soit efficace, il doit être pris en main par le dessinateur. En tant que crayon divin, nous devons apprendre à nous laisser conduire par la main de Dieu, l'artiste par excellence. Les artistes créent des chefs-d'œuvre avec un crayon, poèmes, des histoires, des dessins, etc., etc. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. Un crayon souvent utilisé doit être taillé régulièrement pour que sa mine trace des traits fins et précis. Nous devons accepter que Dieu nous affûte quotidiennement et plus si affinité pour nous débarrasser de la partie de bois qui pourrait nous empêcher d'être efficace. Vous savez, un crayon mal taillé, à la fin, la mine est complètement plate et puis au bord il y a le bois et quand vous essayez de colorier avec ou de dessiner, ça fait des traits grossiers et imprécis. Tout le contraire de ce que Dieu veut de nous. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais quand j'étais petite, des fois j'avais des idées un peu étonnantes. Et un jour, je me suis dit que je pourrais me couper les ongles avec le taille-crayon. Alors j'ai mis mon petit doigt dedans et j'ai tourné. Inutile de vous dire que ça n'a pas coupé que l'ongle. Ça... Alors, bon, voilà, bref, je vous passe les détails. La maîtresse s'est fâchée parce qu'elle a dû aller chercher des pansements. Voilà, bon, bref. Donc, je peux vous dire que l'aiguisage, c'est pas toujours agréable. Hébreux 12, 21, « Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse. Aïe, aïe, aïe. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. » Moi, j'ai appris une leçon. On ne peut pas se couper les ongles avec le taille-crayon. Donc, quand Dieu nous aiguise, on en prend des leçons. Alors, la gomme, c'est une auxiliaire précieuse pour tout crayon qui se respecte. On raconte qu'un habitué de la gomme, fatigué de la chercher continuellement sous ses papiers, sous ses trucs, sous ses machins, déposa un brevet le 30 mars 1858. Le crayon pourvu d'une gomme était né. Et c'est aussi une solution que Dieu a prévue pour corriger nos erreurs. Pour lui, sa gomme, c'est la gomme du pardon. Mais la remise sur les quatre roues quand on est dans le fossé passe aussi par l'intervention de personnes gommes, remplies de l'esprit et que Dieu utilise pour nous ramener là où il nous attend. Donc, soyons malléables entre leurs mains. 2 Timothée 4,2 « Corrige les erreurs, fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience en cherchant toujours à enseigner. » Ce n'est pas une invention humaine. L'apôtre l'a dit à Timothée, et lui, il ne l'a pas inventé, il l'a reçu de Dieu. « Corrige les erreurs, fais des reproches, mais toujours en cherchant à enseigner, avec amour et patience. » Alors, au cours de ma carrière de maîtresse, j'ai croisé des enfants qui démontaient tout pour voir ce qu'il y avait dedans. Et les crayons n'ont pas échappé à leur curiosité. Alors, d'abord, ils les ont partagés en deux comme ça, mais ils ont retrouvé deux crayons, en fait. Parce qu'on ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Et alors, donc, il y a des petits ingénieux qui ont, avec le compas, piqué tout le long du bois jusqu'à pouvoir écarter. Et bon, ils ont été déçus parce que dedans, qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'y avait que la mine. Quand, après cette opération chirurgicale, le bois était bon à mettre à la poubelle ou au feu. Mais la mine, bien que fragilisée, elle pouvait encore remplir sa fonction. Tenue par les mains, des mains minutieuses, elle pouvait encore écrire, elle pouvait encore laisser des traces. Le cœur du crayon est sa partie la plus importante. Bon, il y a plein d'expressions sur la mine, hein. Par exemple, avoir mauvaise mine, faire grise mine, avoir une mine de papier mâché, à faire une mine d'enterrement, il y en a tout plein. Et Dieu veut changer nos cœurs pour que notre intérieur, notre mine, soit parfaite. La qualité de la vie vient de l'intérieur. Alors, vous connaissez tous ce passage, moi je l'aime bien. Quand Samuel est allé voir monsieur Isaïe, il cherchait un roi. Et donc, est arrivé l'aîné, je pense que c'était l'aîné, puisque ça devait se passer dans ce sens-là, Éliab. Samuel l'a vu, et tout de suite il s'est dit, waouh ! Il voyait déjà le manteau royal, la couronne, et tout, il était vraiment en contemplation intérieure, quand Dieu lui a tapé sur l'épaule, et Samuel, oh, reviens avec nous. Le Seigneur lui dit, c'est 1 Samuel 16, 7, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde au fond du cœur. Je regarde à la mine, je regarde à ce qui est le plus précieux en vous. Vous savez, on a tous des fleurs préférées. Moi, ma fleur préférée, peut-être parce qu'elle représente ma région, mais surtout, je la trouve, voilà, je l'aime bien. Et c'est ce que j'aurais, si j'étais une fleur, j'aimerais être une violette. Pourquoi? Eh bien, parce que la violette, avant de la voir, vous sentez le parfum. La violette sauvage, quand on était petit, je me rappelle, ma tante, elle rassemblait les cousins, cousines, et puis elle faisait ce qu'on appelait des oreillettes. Et on allait prendre le goûter sur l'herbe et on allait chercher les violettes. Et on ne les voyait pas, mais on les sentait. Et je trouve que c'est tellement formidable. Même si tu as l'impression qu'on ne te voit pas, l'important, c'est le parfum que tu dégages. Alors, comme le crayon, notre mission est de laisser des traces qui pourront être lues et reçues par ceux qui nous entourent. Alors, laissons l'artiste faire de nos vies des écrits révélateurs de qui il est. Bon, nous connaissons tous Mère Teresa. Écoutez ce que disaient ses proches. Mère Teresa se considérait comme un simple instrument entre les mains du Seigneur, ou pour employer une de ses célèbres expressions, comme un crayon entre les mains de Dieu. Le mérite, disait-elle, ne revient jamais au crayon, mais à celui qui écrit, c'est-à-dire dans ce cas, dans mon cas, disait Mère Teresa, Dieu. Et c'est de cette conviction profonde que naissait sa confiance illimitée, son espérance tenace dont la source n'était pas en elle, n'est pas dans ses forces, mais dans la grâce divine. C'est une grande leçon d'humilité que nous a donné ce petit brin de femme. Et que cela nous aide à ne pas prendre la grosse mine. Dieu veut faire de toi un crayon bien aiguisé qui remplira bien sa mission si tu ne quittes pas sa main. Oui, mais pour que les crayons puissent s'exprimer, il faut un support. Alors vous avez une chanson qui dit « On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime ». Je vous déconseille d'écrire sur les murs, surtout si vous n'êtes pas chez vous. Hein. Bon. Donc prenez plutôt une feuille. Alors dans notre histoire, la feuille fait preuve d'une grande sagesse. Elle entre dans le ministère de la réconciliation, elle recentre les visions du crayon et de la gomme. Ça, c'est aussi quelque chose que Dieu nous demande. Romains 14, 19, « Alors cherchons ce qui sert la paix et qui construit la communauté. » Quand nous sommes en mission feuille, soyons des faiseurs de paix. Non, non, soyons des faiseurs de paix. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Alors, une feuille de papier blanche incite aux bonnes résolutions. Moi, j'ai toujours aimé les feuilles blanches, les cahiers neufs, et tellement que des fois, je n'en sers même pas parce que j'ai peur de les abîmer en écrivant dessus. Dans mon armoire, j'en ai deux ou trois, des très très beaux cahiers que je n'ai jamais utilisés parce que je me dis, il ne faut pas les gâcher. Mais, par contre, pour un écrivain, le syndrome de la page blanche, c'est source de panique. parce qu'il faut qu'il écrive, il faut qu'il produise. Heureusement, hein, celui qui écrit nos histoires a toujours de belles choses à écrire sur la feuille de nos vies. Il n'a jamais le syndrome de la page blanche. Alors le papier, d'où vient-il? Bon, sa petite histoire fait de lui un héritier qui ne ressemble pas forcément à ses ancêtres. On écrivait, avant que le papier ne soit inventé, on écrivait sur des parchemins, sur du papyrus, sur des écorces, sur des feuilles d'arbres, sur ces lamelles de bambou, sur des tablettes d'argile ou de cire, sur des petites morceaux de planche, sur du tissu, sur des os, vous savez, les gros os des animaux, sur des écailles, sur de la pierre. Tout était bon pour communiquer, mais parfois un peu lourd à transporter. J'aime bien... Bon, je ne sais pas si vous êtes des amateurs d'Astérix, moi je les dévore. Et donc j'aime bien, vous savez, il y a dans plusieurs, il y a, vous voyez le gros Romain bien ventru là, qui les mène derrière le dos, qui dicte son courrier, au pauvre gars avec son petit pic et son marteau qui essaye de graver sur la pierre, et puis il lui dit, tu m'en feras 5 exemplaires. Et pensez au facteur qui doit les distribuer. Hein? Merci papier. Donc le papier, dans son état premier, nous vient de Chine, où il a vu le jour il y a 2000 ans. Bon, il a transité au gré des voyages pionniers, il est arrivé au Japon, et puis après il y a des Arabes qui ont fait prisonnier quelqu'un qui connaissait le secret du papier, donc ils l'ont encore affiné, ils ont fabriqué, mais ils ont amélioré, après il est passé en Espagne, bref, il est arrivé jusqu'à nous. Oui. Mais ce qui va lui donner vraiment un élan considérable, c'est l'invention de l'imprimerie. Et dans l'invention de l'imprimerie, le papier a joué dans la parution de la première Bible. Quel honneur! Franchement, que Dieu fasse de nous ces papiers qui honoreront sa parole. Alors, est-ce que la Bible parle... Après, le papier a été fabriqué industriellement plus au XIXe siècle avec l'école et avec tout ça. Hein. Bon, est-ce que la Bible parle de notre feuille comme dans notre histoire? Pas vraiment, mais quoique, peut-être que si. La feuille est indispensable pour que le crayon et la gomme puissent accomplir leur ministère. Mais elle nous représente aussi la feuille. Nous sommes des feuilles. 2 Corinthiens 3:2, notre lettre... C'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs et tout le monde la connaît et la lit. Nous sommes une lettre écrite par Dieu qui raconte sa puissance et qui parle plus efficacement qu'un moulin à parole. L'une des missions de la lettre, c'est d'annoncer, de prévenir, de conseiller, de servir de témoignage, de donner des nouvelles. Elle laisse des traces et elle peut se transmettre. Regardez les épîtres. Il y a belle lurette qu'elles ont été écrites, hein. Eh bien, on les lit toujours avec autant de bonheur et l'esprit travaille autant, toujours autant au travers d'elles. Que Dieu fasse de nous des lettres qui ne soient pas périmées, qui ne s'usent pas. Alors dans le cas de la feuille que nous pouvons être entre les mains du Seigneur, nous devons accepter et même désirer que son empreinte colore notre vie. Quand on travaillait à l'éducation nationale, on avait un directeur très carré en affaires. Comme il a eu vent qu'on était chrétien, il nous a dit, ici, dans l'école, on ne parle ni de religion ni de politique. Bon, pour la politique, des fois, il y avait des trous dans le contrat parce qu'ils en parlaient, mais la religion, il était intransigeant, donc on n'en parlait pas. Et quand on sortait de l'école, souvent les parents venaient, et puis ils nous confiaient leurs problèmes, ils nous demandaient des conseils, ils nous disaient, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je ne sais pas, je me sens en confiance avec vous. Et ça, c'était l'empreinte colorée que Dieu mettait sur nos vies. Nous, on n'en était pas conscients. On ne disait rien, parce que voilà. Mais le Saint-Esprit faisait son œuvre. Il veut le faire en chacun de nous. Bon, on connaît tous ce dicton, ce proverbe qui dit « Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis ». C'est tellement vrai. Alors, si nos enfants ou d'autres personnes que nous aimons n'ont pas encore engagé leur vie avec Dieu, donnons-leur avis d'avoir le même papa que nous. C'est souvent plus facile de réciter des versets sous forme de mitraillette que de laisser le Saint-Esprit changer notre caractère. Quand j'ai débarqué de ma campagne dans la région parisienne, je suis allé dans l'église de Fontenay, où j'ai passé 46 ans, un bout de vie, hein, Et là, dans le groupe de jeunes, pas très jeunes, il y avait une Bretonne expatriée, elle s'appelait Germaine. Elle avait l'accent comme ça. Et Germaine était championne olympique du lancer de versée. Elle en avait pour tout, pour tout, pour tout. Alors elle avait une amie 6, vous savez, avec le pare-brise arrière qui faisait comme ça là. Alors bon, il n'y a que ceux de plus de 50 ans qui ont connu ces voitures-là. Mais le pare-brise arrière de sa voiture était couvert de versets multicolores, tous plus flippants les uns que les autres. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, et etc. Tout dans cet acabit-là. Et au volant de son bolide, Germaine brûlait les feux rouges, oubliait les stops, refusait les priorités, tout en chantant des cantiques à tue-tête avec la vitre grande ouverte. Nous, dans la voiture, on serrait les fesses et on priait. Mais je me suis souvent posé la question, quelle lecture les automobilistes avaient-ils sous les yeux? Ils avaient des versets. Ils avaient des avertissements. Mais la vie de Germaine n'était pas forcément conforme. Et c'est pour que nous soyons des lettres vivantes lues par tous que Dieu nous missionne en tant que feuilles. Ah, il s'appelait Monsieur Dosseres, le pasteur. Parfois, on peut être malheureux parce que la feuille de notre vie a été le terrain de bataille d'un crayon mal taillé et d'une gomme hyperactive et un peu sale. Résultat, on regrette d'en être arrivé là. C'est sale sur notre vie. Mais Dieu est tellement oublieux de nos fautes lorsque nous nous repentons. Avec lui, nous pouvons toujours briser cette vieille histoire, cette malencontreuse histoire que nous avons maladroitement commencé à écrire, avec l'aide d'outils qui n'étaient pas authentifiés par Dieu. Et nous pouvons repartir à zéro. La gomme du pardon de Dieu fait table rase des erreurs inscrites sur la feuille de nos vies. Aujourd'hui encore, nous pouvons redevenir une page blanche entre ses mains. Alors si tu es mal à l'aise par rapport à ce qui est écrit dans ta vie, tu as la solution. Ne reste pas comme cela. Ça, c'est une chouette assurance quand même. Savoir qu'à tout moment, Dieu nous redonne une page blanche. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas l'âme d'un écrivain. Nous allons parler papier en général. Alors selon le but fixé, le contexte, nous pouvons être du papier Bible, si fin, si délicat. Moi j'aimais bien caresser les pages de ma Bible. Bon maintenant je vois plus clair dans ma Bible, parce que c'est écrit trop petit, donc je caresse l'écran de mon téléphone. Et donc, nous pouvons être aussi du papier à lettres pour une relation bénissante avec une personne qui a besoin de cela, qui le demande. Nous pouvons être du papier craft pour les missions costauds, ou du papier cadeau pour apporter la joie, ou du papier de soie pour accompagner les situations de fragilité, du papier crépon pour embellir les circonstances, du papier bulle pour assurer la protection de ceux que nous accompagnons, du papier peint pour amener de la beauté dans les vies, du papier journal pour annoncer les bonnes choses et les moins bonnes. Et je vous fais grâce du papier absorbant, du papier alu, du papier toilette, pourtant indispensable au quotidien. Hein ? Vous savez, on a dit plusieurs fois que Dieu est un artiste. Hein ? Mon beau-frère Yves, le mari de ma sœur, qui est architecte, il a des mains d'artiste. Je me souviens une fois, on attendait quelqu'un, c'était son anniversaire, et on avait acheté un cadeau. Et puis, en fait, la communication est mal passée. Ma sœur pensait que j'avais acheté le papier cadeau. Moi, je pensais qu'elle l'avait acheté. Résultat, une heure avant l'arrivée des invités, on n'avait pas de papier cadeau pour envelopper le paquet. Et il faut dire qu'ils habitent un petit paradis perdu au milieu de nulle part. C'était pas le temps de prendre la voiture pour aller à la boutique chercher un rouleau de papier cadeau. Mon beau-frère a dit, mais vous inquiétez pas. Il a pris une double feuille de son journal, La Dépêche, et il a fait des plis, il a fait des tortillons, il a fait des trucs, des machins. Ben vous savez quoi? Le résultat, c'était magnifique. C'était magnifique. Et quand Dieu nous missionne, il n'y a aucun concours, aucune comparaison. Ah, tiens, papier plus ordinaire, moi je suis beau papier, moi je brille. aucune rivalité. Il choisit ce qu'il y a de mieux pour chaque cas, chaque circonstance. Et la meilleure façon de le servir, c'est de se faire tout à tous. Pour toucher les cœurs, répondre aux besoins en tant que main et cœur de Dieu. Alors chaque matin, remettons notre journée à Dieu en acceptant sa mission, sans savoir quelle forme de papier il nous fera endosser pour le servir. On ne sait pas, mais peu importe. Seigneur, je suis là. L'essentiel, c'est de répondre présent pour l'envoi dans son champ. Le plus important, c'est d'être prêt. Dieu fait le reste. Alors ne t'inquiète pas si tu as l'impression d'être un peu froissé, de ne pas briller comme certains. L'artiste, c'est Dieu. Il va faire des choses que tu ne soupçonnes même pas avec toi. Et si on te le disait, tu dirais, ça va pas la tête, non ? Ta part, c'est de travailler sur ton caractère pour devenir souple, malléable, attentif, soumis, pour ressembler de plus en plus à Jésus. Il a envie de nous aider avec ce défi, mais il veut que nous soyons demandeurs. Alors la semaine dernière, Vito nous a parlé de fission et de fusion, c'est ça ? Enfin, du nucléaire, pour moi ça me dépasse. Hein bon. Et je vais vous donner un exemple beaucoup plus mécanique. Imaginez une station hydroélectrique. C'est quand même pas mal, hein ? Alors il y a d'immenses alternateurs qui ont besoin d'une force énorme pour produire l'électricité. Les muscles des employés ne suffisent pas pour les faire tourner. Non, ça ne marche pas. Mais ces mêmes muscles suffisent pour ouvrir les vannes qui permettront à l'eau du barrage de s'engouffrer dans les conduites et d'animer les turbines. Notre volonté suffit pour ouvrir les vannes de l'obéissance et la puissance du Saint-Esprit s'engouffrera dans notre vie pour accomplir ce à quoi nous aspirons, mais que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Mais Jésus est un gentleman. Il ne fait rien sans y avoir été invité. Alors si tu en ressens le besoin, il t'aidera dans la transformation de ton caractère. Mais il faut que tu le veuilles. Pour ma part, je désire tellement, tellement être cette feuille sur laquelle Dieu sera libre d'écrire ce qu'il veut. Ou ce papier précis dont il a besoin dans cette circonstance. C'est vraiment mon désir, je dis Seigneur, mais montre-moi toujours ce que tu veux faire avec moi, et fais-le surtout. Et si nous nous mettons tous à la disposition de l'artiste divin, que nous soyons gomme, crayon ou papier, pour écrire son amour, pour écrire la beauté de sa création, Dieu pourra écrire, composer la plus merveilleuse histoire pour apporter sa vie autour de nous. L'aventure vous tente ? Oui. Seigneur, nous merci de nous associer à ton projet pour faire de notre famille Josué un endroit de ressourcement, de vérité, d'encouragement, d'entraide. Nous voulons coopérer pour devenir ton œuvre d'art lisible, Seigneur, lisible par tous ceux qui vivent autour de nous. Quelle que soit la mission que tu nous confies, nous voulons l'accomplir en puisant nos ressources dans le fruit de l'Esprit, dans ton amour inconditionnel. Nous désirons être un sel savoureux, une lumière efficace pour faire fuir les ténèbres. Merci parce que nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes tes enfants. Nous sommes fils et filles. Seigneur, merci pour notre adoption. Et nous voulons t'honorer par nos vies, aussi par notre unité, notre amour mutuel. Seigneur, nous te bénissons et nous appelons ta grâce sur notre famille Josué, sur notre communauté. Seigneur, que nous puissions briller, que nous puissions étinceler pour attirer tous ceux qui ont besoin de ton amour, Papa. Amen.